Chapitre 9. Sa beauté, sa jeunesse souriaient au monde où il aurait vécu. Puis de ses mains est tombé le livre dans lequel il n'a rien lu. Il y a plus de 1000 photographies dispersées dans mon cimetière. Des photos en noir et blanc, sépia, aux couleurs vives ou passées. Le jour où toutes ces photos ont été prises, aucun des hommes, des enfants, des femmes qui posaient innocemment devant l'objectif ne pouvait penser que cet instant les représenterait pour l'éternité. C'était le jour d'un anniversaire ou d'un repas de famille, une balade au parc un dimanche, une photo de mariage, de bal de promotion, un nouvel an. Un jour où ils étaient un peu plus beaux, un jour où ils étaient tous réunis, un jour particulier où ils étaient plus élégants. Ou alors dans leurs habits de militaire, de baptême ou de communiante. Que d'innocence dans le regard de tous ces gens qui sourient sur leur tombe. Souvent, la veille d'un enterrement, on trouve un article dans le journal, un article qui résume en quelques phrases la vie du défunt, brièvement. Une vie, ça ne prend pas beaucoup de place dans le journal local. Un peu plus si c'était un commerçant, un médecin ou un entraîneur de foot. C'est important de mettre des photos sur les tombes. Sinon, on n'est plus qu'un nom. La mort emporte aussi les visages. Le plus beau couple de mon cimetière, c'est Anna Lave, épouse d'Ahan, 1914-1987, et Benjamin d'Ahan, 1912-1992. On les voit sur une photo colorisée qui a été prise le jour de leur mariage dans les années 30. Deux merveilleux visages souriants aux photographes. Elle, blonde comme un soleil, la peau diaphane. Lui, le visage fin, presque taillé, et leurs regards brillants comme des saphirs étoilés. Deux sourires qu'ils offrent à l'éternité. En janvier, je passe un chiffon sur les photos de mon cimetière. Je ne le fais que sur les tombes qui sont abandonnées ou très peu visitées. Un chiffon imbibé d'eau contenant une goutte d'alcool à brûler. Je fais la même chose sur les plaques, mais avec un chiffon trempé dans du vinaigre blanc. J'en ai pour environ 5 à 6 semaines de nettoyage. Quand Nono, Gaston et Elvis souhaitent m'aider, je leur dis non, qu'ils ont déjà assez à faire avec l'entretien général. Je ne l'ai pas entendu arriver, c'est rare. Les pas que font les gens sur le gravillon des allées, je les repère tout de suite. Je sais même s'il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'un enfant, d'un promeneur ou d'un habitué. Lui, il se déplace sans faire de bruit. Je suis en train de nettoyer les 9 visages de la famille Esme. Étienne, 1876-1915. Lorraine, 1887-1928. Françoise, 1949-2000. Gilles, 1947-2002. Nathalie, 1959-1970. Théo, 1961-1993. Isabelle, 1969-2001. Fabrice, 1972-2003. Sébastien, 1974-2011. Quand je sens son regard dans mon dos, je me retourne. Il est à contre-jour, je ne le reconnais pas tout de suite. C'est à son « bonjour », à sa voix que je comprends qu'il s'agit de lui. Et juste après sa voix, avec 2 ou 3 secondes de retard, son odeur de cannelle et de vanille. Je ne pensais pas qu'il reviendrait. Cela fait plus de 2 mois qu'il est venu frapper à ma porte côté rue. Mon cœur s'emballe un peu. Je sens qu'il me souffle « méfiance ». Depuis la disparition de Philippe Toussaint, aucun homme n'a fait battre mon cœur un peu plus vite. Depuis Philippe Toussaint, il ne change pas de rythme, exactement comme une vieille horloge qui ronronne nonchalamment. À part le jour de la Toussaint où la cadence s'accélère, je peux vendre jusqu'à 100 pots de chrysanthèmes et il faut que je guide les nombreux visiteurs occasionnels qui sont égarés dans les allées. Mais ce matin, alors que ce n'est pas le jour des morts, mon cœur s'emballe. Et c'est à cause de lui. Je crois déceler de la peur, la mienne. J'ai encore mon chiffon à la main. Le commissaire observe les visages que je suis en train d'astiquer. Il me sourit timidement. Ce sont des gens de votre famille ? Non, j'entretiens les tombes, c'est tout. Ne sachant pas quoi faire des mots qui se bousculent dans ma tête, je lui dis « Dans la famille Esme, les gens meurent jeunes, comme s'ils étaient allergiques à la vie ou qu'elle ne voulait pas d'eux. » Il hoche la tête, resserre son col de manteau et me dit en souriant « Ça caille dans votre pays. C'est sûr qu'il fait plus froid ici qu'à Marseille. Vous y allez cet été ?»«
Oui, comme tous les étés, je retrouve ma fille là-bas.
Elle vit à Marseille ?»«
Non, elle voyage un peu partout. » »«
Qu'est-ce qu'elle fait ?»«
Elle est magicienne, professionnelle. »
Comme pour nous interrompre, un jeune merle se pose sur le caveau de la famille Esme et se met à chanter à tue-tête. Je n'ai plus envie d'astiquer les visages. Je verse mon seau d'eau dans le gravier et range mes chiffons et mon alcool à brûler. En me baissant, mon long manteau gris s'entr'ouvre et laisse apparaître ma jolie robe à fleurs carmin. Je vois que ça n'échappe pas au commissaire. Il ne me regarde pas comme les autres. Il a quelque chose de différent. Pour détourner son attention, je lui rappelle que pour déposer les cendres de sa mère sur la tombe de Gabriel Prudent, il faudra demander l'autorisation à la famille.
Pas la peine.
Avant de mourir, Gabriel Prudent avait indiqué à la mairie que ma mère reposerait avec lui. Ils avaient tout prévu. Il semble embarrassé. Il frotte ses joues mal rasées. Je ne vois pas ses mains, il porte des gants. Il me fixe un peu trop longtemps. J'aimerais que vous lui organisiez quelque chose pour le jour où je déposerai ses cendres. Enfin, quelque chose qui ressemble à une fête, sans fête. Le merle s'envole. Il a été effrayé par Eliane qui vient se frotter contre moi pour quémander une caresse. Ah, mais moi, je fais pas ça. Il faut vous adresser à Pierre Luccini, aux pompes funèbres, le tourneur du Val, rue de la République.
Les pompes funèbres, c'est pour les enterrements. Moi, je veux juste que vous m'aidiez à faire un petit discours pour le jour où je déposerai ses cendres sur la tombe de ce type. Il n'y aura personne, juste elle et moi. Je voudrais lui dire quelques mots qui restent entre elle et moi.
Il s'accroupit pour caresser Eliane à son tour. Il la regarde en me parlant.
J'ai vu que sur vos registres, enfin, vos cahiers d'enterrement, je ne sais pas comment vous les appelez, vous aviez recopié des discours. Je pourrais peut-être prendre des morceaux à gauche et à droite dans le discours des autres pour écrire celui de ma mère.
Il passe une main dans ses cheveux. Il a plus de cheveux gris que la dernière fois. C'est peut-être parce que la lumière est différente. Aujourd'hui, le ciel est bleu, la lumière est blanche. La première fois que j'ai vu cet homme, le ciel était bas. Madame Pinto passe près de nous. Elle dit « Bonjour Violette !» et observe le commissaire avec méfiance. Dans la région, dès qu'un inconnu passe une porte, une grille, un porche, on le regarde avec méfiance. J'ai un enterrement à 16h, passez me voir après 19h dans la maison de gardien. Nous écrirons quelques lignes ensemble. Il semble soulagé, délesté d'un poids. Il sort un paquet de cigarettes de sa poche, en met une dans sa bouche sans l'allumer, en me demandant où est l'hôtel le plus proche. À 25 kilomètres. Sinon, juste derrière l'église, vous verrez une petite maison qui a des volets rouges. C'est chez Madame Bréant. Elle fait chambre d'hôte. Une seule chambre, mais elle n'est jamais occupée. Il ne m'écoute plus. Son regard est ailleurs. Il est parti, perdu dans ses pensées. Il revient à moi. Brancion en Chalon. Il n'y a pas eu un drame ici?
Des drames, il y en a tout autour de vous. Chaque mort est le drame de quelqu'un.
Il semble fouiller dans sa mémoire sans trouver ce qu'il cherche. Il souffle dans ses mains et murmure « À tout à l'heure » et « Merci beaucoup ». Il remonte l'allée principale jusqu'aux grilles. Ses pas sont toujours silencieux. Madame Pinto repasse près de moi pour remplir son arrosoir. Derrière elle, Claire, la femme du service oncologie de Mâcon, se dirige vers la tombe de Thierry Tessier, un rosier en pot à la main. Je la rejoins.
« Bonjour, madame, je voudrais planter ce rosier sur la tombe de Monsieur Tessier. »
J'appelle Nono qui est dans son local. Les fossoyeurs ont un local dans lequel ils se changent, prennent une douche midi et soir et lavent leur tenue. Nono dit que l'odeur de la mort ne peut pas s'accrocher à ses vêtements, mais qu'il n'existe aucun détergent pour l'empêcher de salir l'intérieur de sa caboche. Tandis que Nono creuse là où Claire veut planter le rosier,
Elvis chante « Always on my mind, always on my mind ».
Nono met un peu de tourbe et un tuteur pour que le rosier pousse droit. Il dit à Claire qu'il a connu Thierry et que c'était un brave type. Claire a voulu me donner de l'argent pour que j'arrose le rosier de Thierry de temps en temps. Je lui ai dit que je l'arroserais, mais que je ne prenais jamais d'argent. Qu'elle pouvait glisser de la monnaie dans la tirelire en forme de coccinelle qui se trouve dans ma cuisine, sur le frigidaire, et que ses dons en espèces étaient destinés à acheter la nourriture des animaux du cimetière. Elle a dit « D'accord ». Que d'habitude, elle ne faisait jamais ça, aller à l'enterrement des patients de son service. Que c'était la première fois. Que Thierry Tessier, il était trop gentil pour être enterré sous de la terre comme ça, sans rien autour. Qu'elle avait choisi un rosier rouge pour ce qu'il représente et qu'elle voudrait que Thierry continue à exister à travers lui. Elle a ajouté que les fleurs lui tiendraient compagnie. Je l'ai amenée au bord d'une des plus belles tombes du cimetière, celle de Juliette Montrachet, 1898-1962, sur laquelle différentes plantes et arbustes ont poussé, mélangeant les couleurs et les feuillages de manière harmonieuse, sans jamais avoir été entretenue. Une tombe jardin, comme si le hasard et la nature s'étaient arrangés à l'amiable. Claire a dit « Ces fleurs, ce sont un peu des échelles vers le ciel. » Elle m'a remerciée aussi. Elle a bu un verre d'eau chez moi, elle a glissé quelques billets dans la tirelire coccinelle et elle est repartie.